navigation connectée, les suspensions avec butée hydraulique progressive, les a, mais alors blanc gris. Ah, noir, c'est pas mal aussi. Hein.
Citroën a 100 ans, mais vous n'avez pas 100 ans pour vous décider. Pendant les portes ouvertes, profitez de 3000 euros de reprise supplémentaire sur Citroën C4 Cactus Edition Collector Origins avec personnalisation exclusive et suspension à butée hydraulique progressive. Portes ouvertes ce week-end.
Citroën.
Offre valable jusqu'au 31 mars, détails sur citroën.fr.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, quel est le point commun entre le retour annoncé des djihadistes français, les violences policières, la loi anti-casseurs et les affaires d'agression sexuelle? Réponse, le droit, la justice et une série de dossiers défendus par maître Marie Dosé, l'avocate pénaliste, sera notre première invitée. L'alcool, il n'y a pas que des individus qui ont un problème avec l'alcool. Peut-on dire que la France un problème avec l'alcool, une dépendance qui sévit dans tous les milieux et dans beaucoup de métiers. Deux journalistes du magazine Society sont partis explorer les rapports entre la France et l'alcool, ceux qui le fabriquent, ceux qui en boivent et ceux qui en parlent. Le livre s'appelle « Tournée générale ». L'un de ses auteurs, Thomas Pitrel, sera avec nous. Demain, les victoires de la musique classique. J'ai invité la chef d'orchestre Zaya Ziwani, fondatrice de l'ensemble Divertimento Astin, qui œuvre à démocratiser le classique. Et puis Éric Bellion, navigateur presque novice, s'est lancé dans le vent des globes, le tour du monde en solitaire et sans escale. Il en est revenu, il avait une caméra à bout de bras.
J'ai réussi, putain. Je peux vous dire que je suis fier. Oh putain. Jamais baisser les bras, jamais. Putain, l'émotion de malade. Ouais, j'ai réussi mon vent des globes.
Ça donne un film extraordinaire. Mercredi prochain sur les écrans, Comme un seul homme, Éric Bellion viendra nous en parler.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Marie Dosé.
Bonjour.
Avocate au barreau de Paris, vous défendez plusieurs femmes détenues aujourd'hui en Syrie, mais aussi un manifestant gravement blessé par une grenade à Bure il y a un an et demi. Vous avez défendu des militants assignés à résidence pendant l'état d'urgence et encore un acteur visé par une plainte pour viol. Au-delà des cas individuels, ce sont des combats qui ne vont pas de soi et peut-être voudriez-vous les mener à ce micro comme si vous aviez des juges ou des jurés à convaincre. D'abord, ce qui s'est passé hier à Paris, des violences et aussi encore un blessé grave, 4 doigts arrachés sans doute par une grenade de désencerclement, peut-être par une grenade lacrymogène instantanée, on ne sait pas bien. C'est l'arsenal policier qui pose problème ou son utilisation?
Les deux. Moi, je pense qu'il est temps d'interdire ce type de grenades. En Allemagne, par exemple, elles n'existent pas, ou en tout cas, ne sont pas utilisées. Hein. On se contente des canons à eau et de gaz lacrymogène.
Est-ce qu'il y a des violences lors de manifestations aussi, d'un niveau aussi élevé qu'en France ces derniers mois?
Mais je le pense. Et en tout cas, c'est assez intéressant de constater, je lisais un article il n'y a pas très longtemps dans Le Monde, qui expliquait que les gendarmes utilisent ces grenades 8 fois moins que les policiers sur la même manifestation. C'est assez intéressant aussi. C'est peut-être une culture de maintien de l'ordre qu'il va falloir faire évoluer. Moi, celui que je défends, Robin, a été mutilé. Son pied est mutilé à jamais. Il est infirme à jamais. On a dû porter cette plainte avec constitution de partie civile sur un registre criminel jusqu'à Metz, sans que le parquet considère qu'il y avait lieu d'aller plus loin dans le cadre de son enquête préliminaire. C'est bien dommage. Je pense que toutes ces procédures doivent être menées et que ces policiers doivent être sanctionnés.
Où en est ce dossier, précisément?
Ouverture d'information judiciaire criminelle, puisque les faits ont été qualifiés par Robin et son conseil de violence volontaire avec arme en réunion ayant entraîné une mutilation permanente.
Alors ce sont des violences policières qui répondent à d'autres violences. Il y a sûrement de l'autre côté du poste des auditeurs citoyens exaspérés par les dégradations, vitrines, voitures, mobilier urbain cassés chaque samedi. Que diriez-vous pour les convaincre que le projet de loi anti-casseurs qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale est selon vous dangereux ou inadapté, Marie Dosé?
Il est dangereux, il est inadapté, il est surtout liberticide. Voilà, ce n'est pas au droit administratif de contrôler la liberté de manifester. C'est-à-dire qu'on est ici face à finalement des manifestants qui vont finir par être agréés par la préfecture. On ne peut pas mélanger les registres de cette façon-là.
C'est avec le contrôle possible d'un juge, puisque l'interdiction doit être notifiée 48 heures avant son entrée en vigueur, ce qui pourrait permettre à l'intéressé de la contester, cette interdiction, devant le juge des référés, le juge administratif.
Le juge administratif. Le juge administratif.
Oui, qui n'est pas un
vrai
juge.
Ce n'est pas
au
juge administratif de contrôler la liberté fondamentale de manifester. C'est au juge judiciaire. Il existe déjà une peine complémentaire que peut prononcer le tribunal correctionnel d'interdiction de manifester. La difficulté, elle est là. C'est que, comme le dit mon confrère à juste titre, on sanctionne des citoyens et pas des délinquants. On est dans la prédiction. On va désormais interdire à quelqu'un de manifester parce que peut-être il aurait des velléités de...
Le texte se réfère à d'éventuels précédents, hein, un comportement menaçant ou une condamnation déjà prononcée. C'est ce qui est écrit dans l'article 2, c'est la façon dont c'est rédigé. Hein.
Un comportement menaçant, ça ne veut pas dire que la personne qui va vouloir manifester ou qui décide de manifester va se rendre coupable d'infraction. Encore une fois, la difficulté, elle est que ce n'est pas au préfet de contrôler une liberté fondamentale. De toute façon, ce projet de loi ou cette loi, si elle est adoptée, ira, je l'espère, devant le Conseil constitutionnel pour être censuré. Et puis nous, les avocats, nous déposerons des QPC et nous exercerons des recours en vue de faire sanctionner ce texte qui est manifestement anticonstitutionnel et contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés.
Un exemple encore dans les vidéos qui ont été tournées hier à Paris, on a vu un manifestant donner un violent coup de pied au visage d'un policier, je crois que c'était sur les Champs-Élysées ou aux abords des Champs-Élysées. Celui-là, si on lui interdit de manifester samedi prochain, ce serait liberticide.
Ah non, pas du tout, parce que l'infraction est commise, il va passer en comparution immédiate, en tout cas on va probablement l'interpeller. Je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas vu cette vidéo, mais voilà, une enquête préliminaire va être menée, il va être identifié, interpellé, il va passer devant des juges judiciaires qui pourront lui interdire de manifester dans le cadre d'une peine complémentaire. Et là, j'ai aucune difficulté. C'est au juge judiciaire de prononcer cette peine complémentaire.
Vous avez parlé plusieurs fois de, ou une fois au moins, en tout cas je vous ai lu, de populisme pénal. On y est, Marie Dosé ?
Oui, mais on y est, vous savez, depuis... En tout cas, on progresse dans le populisme pénal depuis que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, s'est servi du droit et de la justice pour en faire un fait divers, pour en fait nous inviter tous à surfer sur l'émotion et à ne surtout jamais quitter ce registre émotionnel. Ça crée à un moment donné, ça crée le pire parce qu'on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans la construction, on est uniquement dans le ressenti. Et effectivement, on ne réagit qu'avec le cœur, et le cœur est parfois très mauvais conseil.
Marie Dosé, avocate pénaliste au barreau de Paris. On marque une pause avant d'aborder un autre de vos dossiers, ceux qu'on appelle les revenants, les détenus français du Kurdistan syrien.
Europe 1. Jusqu'à 10h, retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Pour les djihadistes français de l'État islamique détenus en Syrie, une cinquantaine d'adultes avec 70 à 80 enfants. Le scénario du retour en France se précise, écrit le journal Le Monde aujourd'hui, qui parle d'une opération de rapatriement coordonnée internationalement. Maître Marie Dosé, même défi que précédemment, tenter d'expliquer à ceux qui pensent que ces djihadistes ne doivent pas revenir parce qu'ils ont choisi de combattre la France et que la France doit les laisser à leur sort, tenter de les convaincre qu'il faut les laisser revenir. Pourquoi ?
Mais parce que de leur rapatriement dépend notre sécurité. Enfin, il faut juste essayer de comprendre que c'est le raisonnement inverse.
C'est notre intérêt.
Mais bien sûr, moi je ne suis pas en train de vous dire que ces gens ne sont pas dangereux. Je ne les connais pas. En tout cas, elles m'ont désigné, mais je ne les ai jamais rencontrés.
Oui.
D'accord ? Donc, je
il y a des familles en France qui vous ont
bien
demandé
sûr.
De défendre
bien sûr.
Certaines femmes.
Et je ne vais pas vous expliquer que mes clientes n'ont jamais pris les armes, que ce sont des pauvres victimes de l'État islamique, qu'elles sont prises dans les mains d'une secte. Ce n'est pas ça. Ce que je dis depuis 18 mois déjà, ce que nous disons quelques avocats à mes côtés, ce que nous expliquons, c'est que le Kurdistan syrien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc la justice du Kurdistan syrien n'existe pas. Ils ne peuvent pas les juger, ils n'ont jamais pu les juger. Et à partir de là...
C'est
un territoire sans État, sans institution.
Sans administration et sans institution.
Exactement, c'est d'ailleurs une détention arbitraire, dans le sens sans droit ni titre, depuis 18 mois, 2 ans. À partir de là... Les Kurdes expliquent qu'ils ne sont pas là pour nourrir nos prisonniers, soigner les enfants et s'en occuper. Et ils nous appellent depuis 18 mois à les prendre en charge. Là, la France est acculée. Pourquoi ? Parce que les Kurdes ont un tout petit peu de difficultés avec les Turcs qui sont en train d'arriver et puis ont d'autres priorités que de gérer nos prisonniers et disent aux Français, on ouvre les grilles, ça suffit. Puisque vous ne les prenez pas en charge, eh bien nous ouvrons les portes des camps. Il y aura dispersion. Et dispersion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces femmes, ces hommes, eh bien, vont peut-être rentrer en France illégalement, vont peut-être commettre des attentats dans des pays voisins, nous n'en savons rien. Mieux vaut tout sauf la dispersion. En France, elles sont judiciarisées. Chacune d'entre eux et d'entre elles ont un mandat d'arrêt international qui va être exécuté, vont passer par la case juge d'instruction, puis juge des libertés de la détention, et donc détention provisoire.
Même si ce sera une charge énorme, évidemment, pour l'appareil judiciaire, pénitentiaire.
Non mais attendez, soyons clairs là. Pour l'instant, on est à 50 50 adultes. Ouais. 50, 70 600 détenus en France. 50 adultes. Même l'administration pénitentiaire, qui pleure à juste titre sur son sort, explique qu'il n'y a pas de difficulté pour les accueillir et les prendre en charge. 70-80 enfants, c'est deux classes. L'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis est tout à fait prête aussi à faire un travail extraordinaire avec les enfants, comme elle le fait d'ailleurs depuis 2012-2013. Donc cessons de dire, mais comment va-t-on s'en sortir enfin ?
Vous comprenez les craintes de l'opinion tout de même ?
Non, enfin, je les comprends tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'œuvre de pédagogie de réaliser par ce gouvernement, qui a encore une fois préféré surfer sur l'émotion plutôt que d'expliquer. Il y a 18 mois, Emmanuel Macron, président de la République, aurait dû faire une conférence de presse en expliquant que ce retour était inéluctable, qu'on allait le préparer et que c'était important pour notre sécurité. Sauf qu'on a préféré se taire, raconter n'importe quoi quand une garde des Sceaux explique quand même qu'au Kurdistan syrien allaient se dérouler des opérations de jugement des autorités locales. Enfin, c'est quand même scandaleux de la part d'un ancien membre du Conseil constitutionnel.
Oui. Je crois qu'elle l'avait mis au conditionnel, cette phrase. Mais est-ce que vous arrivez à communiquer, Maître Dauzet, avec les femmes que vous êtes censées défendre, qui sont détenues aujourd'hui en Syrie ?
Non, mais c'est très, très compliqué. C'est-à-dire que j'ai pu, de temps en temps, les avoir au téléphone, et encore très rarement, parce que les Kurdes les empêchent d'appeler. Malgré tout, il y a des téléphones qui circulent. Je ne sais pas très bien qui j'ai de l'autre côté.
Ah, vous savez pas qui parle.
Non, c'est compliqué. Je reçois des messages, souvent des messages de détresse. Le lien essentiel, il est avec les familles, avec les parents, avec les oncles, les tantes, avec maintenant aussi, notamment pour une ou deux orphelines, avec les oncles et les tantes ou les grands-parents de ces petites filles. Voilà. Vous savez, on est en dehors du cadre, là. Moi, je suis plus avocat dans les lignes du code de procédure pénale. C'est compliqué pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'elles soient judiciarisées. Quand je vous disais tout à l'heure que je ne les connais pas, défendre quelqu'un, ce n'est pas être désigné par quelqu'un. C'est le rencontrer au parloir, c'est mettre en œuvre une défense, c'est aussi parfois lui dire « j'arrête ». J'arrête parce qu'on n'y arrivera pas, vous n'avez pas confiance en moi et on n'est pas d'accord sur votre ligne de défense. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il est impératif pour tout le monde, pour que les psychologues, les psychiatres puissent travailler, pour que la défense puisse aussi savoir exactement qui elle a en face d'elle, que toutes ces personnes entrent et soient judiciarisées.
Est-ce que ces femmes savent ou est-ce qu'elles ont conscience qu'en rentrant en France, elles ont toutes les chances d'être séparées de leur enfant ou de leurs enfants ?
Alors je peux vous assurer que, en tout cas, je m'attelle à leur expliquer et je passe mon temps à l'expliquer aussi aux familles qui n'ont qu'un souhait, c'est que les enfants rentrent et soient pris en charge dans la maison. Mmh. Même si les enfants ne connaissent pas les grands-parents ou les oncles et tantes. Mais ça ne va pas se passer comme ça,
non,
pas dans un premier temps.
Ils seront confiés à l'aide sociale
voilà.
À l'enfance.
Et puis, il y aura mais voilà, des visites médiatisées. Petit à petit, ils vont pouvoir réintégrer leur famille d'origine. Il va sûrement aussi y avoir des visites médiatisées en détention pour ne pas que ces enfants perdent contact avec la maman si elle est détenue. Vous imaginez bien que depuis 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire la moitié de leur vie ou toute leur vie, ces enfants n'ont pour seul horizon que leur mère. Donc l'arrachement, il est terrible. Il y a 1 an et demi, j'ai demandé le rapatriement
des
de
enfants,
ses enfants
seuls.
Sans leur mère.
Oui.
Plus jamais. En tout cas, là, aujourd'hui, si elle me le demande, je le refuse. Parce que qui peut prendre sur soi un arrachement pareil après 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de détention avec pour seul horizon la maman.
Et de conditionnement éventuel aussi dans ces camps-là. Est-ce que la déradicalisation, ça existe, Marie Dauzet ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que ça fonctionne quelque part en France ?
Mes croyances ont peu d'intérêt, mais les preuves de mon quotidien professionnel. Il se trouve qu'il y a moins d'une semaine, j'étais à une audience qui concernait une jeune fille mineure complètement radicalisée, mais vraiment, qui a essayé de partir en Syrie à plusieurs reprises. Les parents s'en sortaient pas, les juges des enfants non plus. Et puis, elle a rencontré dans le cadre d'un programme formidable qui s'appelle Rive. Elle a rencontré alors qu'elle était sous bracelet électronique un référent cultuel qui a fait un travail extraordinaire avec elle. Et j'ai pu constater qu'effectivement, la déradicalisation, ça existe et ça peut fonctionner. Mais on ne déradicalise pas avec autre chose que la religion. Il faut que ces personnes rencontrent des référents cultuels, qu'il y ait un vrai débat, une contradiction qui leur est apportée sur des certitudes religieuses absolument délirantes.
Je change complètement de sujet, de dossier, Maître Marie Dauzet. Un mot sur ce titre du journal Le Parisien du 14 janvier, information qui a fait beaucoup moins de bruit que l'accusation initiale il y a un an. Le comédien Philippe Cobert, visé par une enquête pour viol, pourrait être blanchi. C'est vrai ?
Alors, pourrait être, c'est le conditionnel. C'est vrai, je l'espère.
Vous le défendez ?
Voilà, je le défends. Le procureur de la République de Créteil va rendre sa décision. Les médias sont plus informés que moi sur ce qui pourrait être décidé. Ce que je sais, juste, c'est qu'il va falloir à un moment donné cesser de médiatiser des plaintes, de simples plaintes. Qu'on médiatise une mise en examen, j'ai pas de difficulté. Une mise en examen, ce sont des juges d'instruction qui se prononcent à un moment donné sur des charges. Qu'on médiatise un classement sans suite ou une décision du parquet de poursuivre, j'ai pas de difficulté non plus. Mais qu'on médiatise « Bonjour, je m'appelle Madame X, Gérard Depardieu ou Philippe Cobert m'a violé », ça n'est pas possible. Parce que c'est nécessairement une atteinte à la présomption d'innocence. Et que 10 mois plus tard, voyez-vous, on en est à « Le parquet pourrait peut-être ». Oui, mais pendant 10 mois, que se passe-t-il? Les directeurs de théâtre, quelle est leur réaction? Bah oui, mais Monsieur Philippe Cobert, vous vous rendez compte, dans tous les journaux, ou en tout cas sur Internet, le Huffington Post, la victime, elle explique à quel point vous l'avez violée. Et si tout cela n'est pas vrai, eh bien vous savez, on est dans un pays, il n'y a pas de fumée sans feu, on ne retiendra que cette dénonciation.
Pardon, c'est ce qui s'est passé pour Denis Baupin?
Exactement, c'est ce qui s'est passé pour Denis Baupin, et finalement, ce procès qui est malgré tout une catastrophe. Pour,
procès, je le rappelle, intenté par Denis Baupin, mais procès en diffamation contre les médias qui avaient révélé l'existence de ces plaintes.
Quelle catastrophe. Cette personne, cette femme qui arrive à la barre en disant « Je voudrais remercier Monsieur Baupin et son conseil parce que grâce à eux, j'ai enfin pu avoir bénéficié d'un procès et j'ai pu exprimer judiciairement ce que j'ai vécu », c'est l'arroseur arrosé. Hein, ça, c'est le droit de la presse et sa violence. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il suffit de prouver sa bonne foi pour eh bien, que la partie civile se retrouve prévenue. C'est ce qui s'est passé dans ce procès-là. Voilà.
Un dernier mot, Marie Dosé. Les avocats sont à l'affiche avec l'affaire Viguier portée à l'écran dans le film en ce moment. Une intime conviction où Olivier Gourmet endosse la robe d'Éric Dupond-Moretti, le même Dupond-Moretti qui raconte sa vie, son métier, ses souvenirs en ce moment sur les planches du théâtre de la Madeleine. Ça pourrait vous arriver un jour?
Jamais. De faire du théâtre, de
jamais.
Jouer. Non, jamais. Mais j'ai beaucoup d'amitié et j'ai une vraie admiration, comme tous les pénalistes, pour Éric Dupond-Moretti, que je connais très bien. Maintenant, j'ai toujours eu peur du mélange des genres. Voilà. Je pense déjà que dans l'opinion publique, on est assez pris pour des comédiens pour ne pas jouer la comédie. C'est toujours compliqué d'expliquer aux justiciables que non, notre robe n'est pas un costume et que réellement, on ne triche pas lorsqu'on défend quelqu'un. Lorsqu'on plaide, on n'est pas dans la comédie. Alors si on explique dans un théâtre et sur scène notre métier, là, j'avoue que j'ai une difficulté.
Merci Maître Marie Dosé. Merci d'être venue sur Europe 1 ce matin.
Europe 1.
Dans un instant, l'alcool, la France et l'alcool. On vous offre une tournée générale. C'est le titre du livre de Thomas Pitrel, notre prochain invité dans un instant.
Europe 1.
C'est arrivé demain, on se poursuit jusqu'à 10h avec vous, Patrick Cohen.
L'alcool, les vins, les spiritueux, la bière génèrent plus de 600 000 emplois en France. L'alcool fait mourir 50 000 personnes par an en France. 13% des décès chez les hommes français sont dus à l'alcool. En Italie, c'est 3%, au Danemark, 1%. Pourtant, la consommation ne cesse de reculer. 26 litres d'alcool pur par an et par habitant en 1961, un peu moins de 12 litres en 2017. Voilà quelques-uns des chiffres qui ouvrent votre livre Tournée Générale. Bonjour Thomas Pitrel.
Bonjour.
Journaliste au magazine Society, des chiffres qui parlent de la vie et de la mort, mais qui ne disent rien de, comment dire, de l'empreinte ou de l'imprégnation alcoolique de ce pays. En refermant ce livre, on se dit que sans alcool, la France n'aurait rien à voir. Elle serait très différente culturellement, économiquement, socialement. C'est votre impression ?
Ouais, c'est un peu le propos du livre en fait. L'idée c'est de dire que à travers notre rapport à l'alcool et la façon dont il a évolué, puisqu'il a énormément évolué sur les, on va dire, 50 dernières années. Comme vous disiez, on boit de moins en moins depuis les années 60, c'est divisé par 2, 2,5 à peu près. Mmh. La consommation d'alcool. À travers ça, en fait, on peut raconter les évolutions sociétales de la France. Donc évidemment, s'il n'y avait pas eu le vin, s'il n'y avait pas eu le cognac, des choses comme ça, il y a plein d'endroits en France qui ne seraient pas les mêmes. Les paysages ne seraient pas les mêmes, évidemment. Mais évidemment. Même la société serait assez différente, a priori.
Vous êtes allé voir des bistrotiers, des viticulteurs, des hommes politiques, Jean-Pierre Soisson, un animateur de télévision, Thierry Ardisson, qui a fait son succès en imbibant ses invités, un chanteur, Joe Star, avec qui vous avez partagé une flasque de rhum, un écrivain, ouais. Philippe Genada, qui a ses habitudes dans le bistrot en bas de chez lui, un producteur et distributeur de cinéma, Vincent Maraval, pour qui rien n'aurait été possible sans la culture de l'alcool. C'est quoi la culture de l'alcool? Pour lui, en tout cas, et pour sa petite entreprise et sa bande de copains.
Alors, pour lui en particulier, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que chaque intervenant du livre a une vision différente, finalement, de cette culture de l'alcool. pour lui en particulier, c'est finalement lui raconte qu'il arrive dans le milieu du cinéma. Il n'est pas du tout, il est pas du tout intégré dans ce milieu. Il connaît personne.
Il est d'Albi, il a un accent du Sud-Ouest et voilà, c'est un complexe
petit,
un peu.
Il y a
un,
éventuellement, lui ressent en tout cas un petit mépris social par rapport à ça. Et il raconte qu'en fait, à travers le fait de boire, de se désinhiber, mais aussi de rencontrer des gens de manière un peu différente. Bah en fait, il va faire son trou dans le cinéma et puis se faire remarquer. Et il considère que s'il n'y avait pas eu l'alcool, il n'aurait pas pu faire ça.
Voilà. Il y a même un cinéaste, Pierre Salvadori, qui raconte avoir tourné une scène de hors de prix avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou, complètement ivre. C'est quand même assez sidérant.
Oui, il raconte qu'il se souvient à peine de ce qu'il a fait et qu'à la fin, il dessinait sur l'écran où il voyait ce qui était filmé. Mais cela dit, il finit par dire qu'il a quand même réussi à tourner cette scène et qu'il n'en est pas si déçu que ça à l'arrivée. Mais ouais, c'est vrai que on a évidemment choisi des gens qui ont un rapport particulier à l'alcool.
Oui, mais ils sont pas isolés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Pierre Salvadori en fait partie. Un certain nombre de vos intervenants envisagent de la décroissance de cette pratique, c'est-à-dire envisagent de voir leur vie et leur métier sans alcool, ou en tout cas avec moins d'alcool que jusqu'à présent.
Ouais, parce qu'ils le voient au fur et à mesure. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelques années encore, on avait sur les plateaux de cinéma, sur les tournages de films, il y avait de l'alcool, même pendant entre le tournage de deux scènes, par exemple.
Ou dans les rédactions,
et aujourd'hui, de moins en moins. C'est matérialisé souvent par le fait qu'en fait, on ne boit plus le midi en France quasiment. Quoi. C'est-à-dire que quand on fait une pause le midi pour aller manger et qu'on travaille, c'est assez rare qu'on prenne du vin, alors qu'il y a 15-20 ans, tout le monde le faisait. C'est une vraie évolution de fond, en fait, dans notre rapport à l'alcool.
Alors tout cela a été chanté, célébré. Tenez quelques exemples sur le thème des ivrognes et de leurs bouteilles.
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie.
Le temps de finir la bouteille, j'aurai rallumé un soleil, j'aurai réchauffé une étoile, j'aurais reprisé une voile.
Ivrogne, et pourquoi pas? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baisent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez boire avec moi, on s'ennuiera plus tard.
Il y avait Graham Allwright, Alain Leprest et à l'instant Bernard Dimet, immense poète qui est mort à même pas 50 ans sur ce poème. Donc Ivrogne, pourquoi pas, il y a des dizaines et des dizaines de chansons dans le répertoire français, de chansons à boire ou à boisson. Et dans votre livre, Tournée Générale, il y a évidemment celle-ci. C'est le groupe Licence 4 dont vous avez, Thomas Pitrel, retrouvé l'un des membres.
Gilou, évidemment,
oui.
Avec son petit accordéon.
Qui ouvre tous ses galas avec cette chanson.
Oui, encore aujourd'hui, et qui lui aussi dit, si on sortait ce morceau aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il aurait le même succès, parce qu'à l'époque, quand même, il vend 1,4 million de singles, ce qui était quand même pas gagné d'avance, vu le morceau, lui-même le dit d'ailleurs, c'était censé être une chanson pour ses copains, pour sa famille. Et à l'arrivée, ils en vendent 1,4 million. C'est aussi, je pense, à travers l'histoire de Gilou, qui fait encore des galas d'accordéon. Il a accompagné Pierre Perret pendant très longtemps, je pense 50 ans à peu près. Et à travers cette histoire-là, en fait, on voit quand même une époque qui n'existe plus, quoi. C'est-à-dire l'époque où on pouvait chanter « Viens boire un petit coup à la maison », il n'y avait pas de... sans risque de censure, on va dire. Alors après, quand on interview Gilou, évidemment, lui a une sorte de nostalgie par rapport à ça. La question se pose, quoi. Est-ce qu'il faut être nostalgique ou est-ce que finalement, c'est peut-être mieux?
Vous décrivez, évidemment, on n'en a pas beaucoup parlé, tous les secteurs économiques considérables que représente l'alcool en général et le vin en particulier. Il y a un sénateur socialiste qui vous raconte que le fait d'avoir voté pour la loi Evin en 91, je ne me trompe pas, oui, 91, il l'a payé. Et François Patria dit que il a perdu son siège de député à cause de ça et que c'était fini, il n'a jamais retrouvé. Le sujet fait encore débat aujourd'hui. Hein. Le vin est-il un alcool comme les autres, hein? Agnès Buzyn a dit que oui, la ministre de la Santé, et Didier Guillaume, à plusieurs reprises, le ministre de l'Agriculture, dit que non, le vin n'est pas un alcool comme un autre en France. Vous voyez cette polémique qui continue.
C'est une polémique qui n'est pas prête de s'arrêter, parce qu'évidemment, quand on est ministre de l'Agriculture, on peut difficilement dire à tous les viticulteurs, à tous les vignerons, qu'ils n'ont pas une place à part, parce que si les... Finalement, si, on parle souvent du lobby de l'alcool. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un vrai lobby de l'alcool, c'est-à-dire que le lobby de l'alcool est incarné par les députés, par les sénateurs eux-mêmes. Parce que quand on a une circonscription où l'économie est en grande partie basée sur la viticulture, est-ce qu'on peut vraiment dire que le vin est un alcool comme un autre ? Je ne suis pas sûr. Et en fait, quand ils disent ça, quand on est ministre de l'Agriculture de la même manière, parce que la viticulture est une part très importante de l'agriculture en France, je suis pas sûr qu'on puisse dire autre chose, en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça, quoi.
Voilà. Puis dans votre livre, il y a aussi du cognac. On est dans le cognacais et il y a du whisky aussi, parce que moi j'ai découvert, je savais pas qu'il y avait des chiffres de production de whisky français qui sont aujourd'hui considérables.
Il y a de plus en plus, de whisky français. Mais il y a moins de whisky français aujourd'hui que de vodka française, parce qu'il y a eu une année où la France a produit plus de vodka que de cognac, il y a quelques années.
Voilà, on va s'arrêter là. On referme le goulot. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut consommer avec modération. Merci Thomas Pitrel. Tournée générale avec Victor Legrand. Ça paraît mercredi prochain chez Flammarion. Merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Dans un instant... Une femme, chef d'orchestre, venue du 9-3 et qui a fondé son orchestre dans le 9-3, en Seine-Saint-Denis, à Stein. Zaya Ziwani, fondatrice de l'ensemble Divertimento, va nous expliquer que oui, on peut démocratiser la musique classique.
Europe 1, de 9h à 10h, vous écoutez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Zaya Ziwani.
Bonjour.
Vous êtes donc chef d'orchestre. Déjà, pour une femme, c'est pas banal. Est-ce qu'il y a de la fierté pour vous, en portant ce titre que vous portez déjà depuis quelques années?
Mais... Oui, c'est vrai. Ah bah écoutez, oui, bien sûr, beaucoup, parce que c'est un métier que j'ai rêvé de faire quand j'étais enfant, et puis que, bon, voilà, un chemin qui a été difficile, qui n'est pas toujours simple encore aujourd'hui. Donc voilà, d'être parvenu à réaliser mon rêve et à mes fins, oui, en effet, c'est une belle fierté.
Titre de chef d'orchestre, moins de 4% des chefs sont des femmes.
Oui, bah c'est vrai que c'est un univers qui est encore très ancré dans des traditions assez masculines, avec une histoire où les femmes ont mis du temps à pouvoir intégrer les orchestres déjà en tant que musiciennes. Et à la tête des orchestres, forcément, la personne qui représente l'autorité, ça a été encore plus difficile. Donc c'est vrai qu'on est très très peu de femmes à exercer ce métier, et puis malheureusement pas de femmes à être à la tête des orchestres nationaux en France notamment, très peu de femmes aussi dans le monde. Donc voilà, c'est encore un long chemin, mais bon, par contre ça nous a amené toutes, et moi particulièrement aussi avec l'orchestre Divertimento, à monter des projets aussi indépendants, des orchestres, et avec des idées aussi par ailleurs qui amènent à faire bouger un certain nombre de lignes dans ce milieu musical.
On va parler de cet ensemble Divertimento que vous avez fondé en Seine-Saint-Denis, donc à Stein, dans quelques instants. Juste un mot, mercredi prochain, les Victoires de la musique classique, ça vous parle, ça vous intéresse, ou c'est complètement un autre monde?
Oh oui, ça me parle bien sûr, parce que il y a beaucoup d'amis artistes musiciens qui sont présents, qui seront certainement en lice. Mais oui, c'est aussi un univers particulier, voilà, où il y a beaucoup de lumière, de médiatisation aussi sur des actualités de disques. Alors moi, c'est pas que ça m'intéresse pas les disques, au contraire, ça fait partie de projets que j'aimerais bien réaliser, mais moi, ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est d'être sur la scène et surtout de partager ces moments-là. Et c'est ça qui est beau, la musique, c'est de pouvoir créer des moments humains, de rencontres, de partage, que ce soit dans les grandes salles de concert, mais aussi dans beaucoup de milieux urbains, ruraux, où les gens ont peu accès à la culture. Et c'est vraiment ça sur lequel j'ai envie de me concentrer.
Ce qui vous intéresse, c'est de participer à la démocratisation du classique, ce qui n'est pas forcément le cas des victoires qui s'adressent à un public déjà conquis, déjà connaisseur, c'est ça que vous nous dites ?
Oui, après, enfin, il faut aussi de ces moments-là pour apporter un peu de lumière à la musique, aux actualités musicales. Bon, voilà, ça passe à la télé, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça non plus. Et c'est vraiment, c'est sur le terrain, le travail de terrain, dans la durée, parce que c'est un cheminement qu'on doit pouvoir faire aussi pour amener des publics très différents, tant dans la diversité sociale, culturelle, intergénérationnelle, à venir au concert. Et voilà, moi, je me concentre plutôt sur ce travail.
Stein et la Seine-Saint-Denis, ça reste une terre de mission pour le classique.
Oui, et en même temps, c'est un territoire qui est très riche, qui est très dynamique, avec aussi pas beaucoup d'élus locaux qui sont investis dans cette dimension d'accès à la culture. Après, souvent, c'est vrai que c'est compliqué, parce que c'est un territoire qui a également beaucoup de besoins dans plein d'autres domaines. Donc, c'est vrai qu'il faut être très engagé dans l'éducation, dans la santé, dans les transports. Donc, parfois, ça ne laisse pas beaucoup de place pour ce territoire à la culture. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de dynamique. Et puis, avec l'Orchestre Divertimento, ça fait en effet plusieurs années que nous sommes en résidence à la ville de Stein, qui porte, c'est une ville de 30 000 habitants, mais qui porte aussi beaucoup ces sujets autour de la culture. Hier soir, on est en concert à la ville de Villepinte. On a des projets également à Sevran, Tremblay-en-France, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, donc dans plein d'autres villes de ce département.
70 concerts par an ?
Oui. Entre, ça dépend les années, mais entre 40 et 70, ça dépend.
Ouais, c'est bien. Voilà. 80 musiciens ?
Oui.
C'est formidable. Et vous avez choisi un morceau c'est du Saint-Saëns, mais c'est pas le carnaval des animaux, c'est pas le Rondo Capriccioso qu'on connaît. Voilà, écoutez. Ce que vous écoutez, c'est la danse bacchanale de Camille Saint-Saëns, jouée par l'Orchestre Symphonique Divertimento il y a quelques années à la Philharmonie de Paris. Pourquoi avoir choisi cet extrait, Zaya Ziwani ?
Écoutez, c'est parce que c'est une des œuvres emblématiques que l'Orchestre Divertimento aime bien jouer, et puis qui est aussi peut-être qui incarne une certaine philosophie qu'on a donnée au projet artistique de l'orchestre. Moi, ce que j'aime bien, c'est de montrer comment notre patrimoine musical, le répertoire musical, alors français et puis européen plus largement, s'est construit avec des compositeurs qui viennent beaucoup de France, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche et d'Europe de l'Est, mais qui se sont aussi beaucoup inspirés des musiques populaires et traditionnelles, mais pas forcément que de leur pays, mais d'autres cultures.
Et dans ce cas
Camille Saint-Saëns, qui était un compositeur qui était considéré comme très académique à son époque, s'est inspiré de la musique algérienne, et donc voilà, de montrer que aussi notre culture française, elle s'est aussi construite avec les rencontres de plein d'autres cultures, et donc c'est un peu le propos de la ligne artistique de l'orchestre. Hier soir, on l'a fait avec le répertoire de Brahms et les influences de l'Europe de l'Est. Et dans quelques temps, on va avoir un gros cycle autour des musiques de la Méditerranée avec un gros temps fort à la Philharmonie de Paris au mois de juin prochain, le 10, où justement, ça va être autour des musiques de la Méditerranée avec vraiment un tour de la Méditerranée, de France, d'Espagne, d'Italie, d'Afrique du Nord, des Balkans également, pour montrer comment notre musique, en fait, elle s'est vraiment construite avec plein d'influences différentes.
Et vous réfléchissez à chaque fois dans ces choix de répertoire à essayer d'attirer, de séduire des néophytes, des gens qui n'ont pas eu de contact avec le classique.
Aussi, voilà, alors ça, on le fait à la fois avec une certaine originalité dans nos programmes, et puis évidemment avec beaucoup d'actions sur le terrain, en allant faire un travail dans la durée, dans les établissements scolaires, dans des centres sociaux, des maisons de quartier, dans beaucoup de lieux qui sont fréquentés par les publics, les médiathèques, des lieux culturels, donc, et de pouvoir, avec ce travail de terrain, amener petit à petit des enfants, des familles qui n'allaient pas forcément au concert, et puis les amener à apprécier. Et puis, dans notre ligne artistique, de montrer également que notre musique, en fait, elle a justement des résonances avec des cultures partout dans le monde et dans une société comme la nôtre, ici en France, où on a des personnes qui ont aussi qui viennent d'un peu partout, ça peut aussi résonner en eux de pouvoir trouver justement un certain intérêt et de mieux comprendre comment s'est construite l'histoire de notre pays. Et ça permet comme ça aussi d'aborder des répertoires très différents, comme du jazz, des musiques classiques arabes, des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est, et de montrer leur cas différemment en fait.
Il faut vous suivre, aller voir ce que fait... cet orchestre Divertimento. Merci beaucoup Zaya Ziwani d'être venue nous en parler ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, un navigateur pas comme les autres, un quasi novice, Éric Bellion, qui s'est lancé dans un Vendée Globe, qui l'a filmé et qui en a fait un documentaire extraordinaire. Bonjour Éric Bellion.
Bonjour.
Vous avez fait deux choses extraordinaires, enfin peut-être plus, mais en tout cas deux au moins. D'abord, un Vendée Globe, c'est-à-dire un tour du monde à la voile, en solitaire, sans assistance et sans escale, alors que vous n'aviez que très peu fait de course à la voile et jamais en solitaire, donc une prise de risque considérable. Et la deuxième chose, c'est un film qui raconte et montre cette aventure avec une caméra à bout de bras. Ça s'appelle « Comme un seul homme ». On vibre avec vous, on a peur avec vous, on a envie que ça s'arrête avec vous. Donc c'est très réussi.
Merci. C'est vrai que cette aventure, c'était la première fois que je faisais une course en solitaire. J'avais aucun repère et je voulais surtout raconter au plus près, le plus sincèrement possible, qu'est-ce qui se passe quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, quand on va au-delà de la peur, et documenter ça le plus près possible.
99 jours de course, combien passé à regretter de vous être embarqué dans cette aventure ?
Déjà le premier jour, quand je passe le chenal des Sables d'Olonne, et qu'il y a tout le public, il y a à peu près 350 000 personnes qui sont tout le long du chenal, et on passe, tous les concurrents, on passe avec notre bateau, et là, quand je vois tous ces gens applaudir les skippers, je me dis... Ouh là là, peut-être que j'ai fait une énorme erreur et peut-être que je vais la regretter, parce que si les gens sont aussi nombreux ici, ça veut dire que ce que je vais faire, c'est un truc de fou. Et toute la descente de l'Atlantique, à peu près un mois, même 40 jours, je vais me demander ce que je fous là. Et je vais être très crispé, je vais en pleurer quasiment tous les jours. Je vais quasiment abandonner parce que je me dis que j'ai pas les épaules, c'est trop dur, j'arrive pas à dormir, c'est très compliqué.
99 jours pratiquement à avoir peur.
Oui, alors avec un rapport différent à la peur. Au début, la peur me paralyse, la peur m'empêche de dormir, la peur me crispe. Et après quelques paliers, la peur va devenir progressivement une amie. Et je vais naviguer avec elle et je ne vais plus avoir peur d'elle. Je ne vais plus avoir peur d'avoir peur. Et ça devient assez magique parce que grâce à ça, je vais trouver un certain état de grâce qui va durer plus d'un mois dans les mers du Sud. Et je vais aller... de plus en plus vite, je vais commencer à doubler d'autres concurrents, à avoir le record de vitesse de la flotte.
C'est incroyable.
Et alors que je suis juste en harmonie, je me sens bien. Ouais. J'ai pas du tout le couteau entre les dents.
La peur, au début, Éric Bellion, elle est liée à la solitude.
Elle est liée bien sûr à la solitude parce qu'il n'y a personne qui est là pour vous dire que ce que vous faites est bien. Donc vous êtes en doute permanent. Et c'est sûr que s'il y avait quelqu'un pour vous aider... Déjà, on peut se cacher avec quelqu'un. On peut se mentir à soi-même. Quand vous êtes tout seul sur l'océan, sur votre bateau, et qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'autre d'y aller en vous disant « Ah, je fais du management ». Non, c'est si vous avez peur d'y aller, vous avez peur d'y aller. Et vous devez faire face à cette faiblesse, à cette fragilité. Et en fait, j'étais obligé de me rencontrer totalement.
Vous n'êtes pas tout à fait seul. Vous avez un partenaire qui est votre bateau. Et c'est évidemment, c'est une personne hein, pour vous et dans le film.
C'est un être vivant. On a fait le Vendée Globe à deux.
Oui, qui est blessé aussi, hein, puisque vous cassez votre safran.
Je casse le safran. J'ai un problème par jour d'ordre technique, donc j'en prends soin. C'est moi qui le répare, c'est moi qui lui règle ses voiles, qui règle le pilote, mais c'est lui qui m'emmène. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est un être vivant et au fur et à mesure, lui est persuadé qu'on va finir la course. Et moi, je me pose des milliards de questions. Est-ce que j'en ai les épaules? Est-ce que j'en suis capable? Mais lui, dès le départ, dès qu'il m'a vu le chercher dans le hangar où je suis allé l'acheter, il savait que c'était avec moi qu'il ferait son premier tour du monde.
Oui. Mais quand il y a des problèmes, ça vous vaut une sorte de lâche soulagement, quoi. Vous vous dites, bon, bah, comme ça, c'est fini, je rentre à la maison, c'est terminé.
Il y a deux parties dans cette course. Il y a une première partie où je suis vraiment pas bien. Et c'est vrai que dès que je vois un gros problème, notamment la perte du safran, je me dis, chic, c'est la porte de sortie rêvée. J'ai une casse technique, je vais sortir la tête haute. Personne ne me dira, ah, t'as arrêté parce que t'avais peur. Donc, je le vois vraiment comme une bénédiction, mais ça dure que quelques secondes. Parce que tout de suite, je sais qu'il y a une tempête qui arrive et l'instinct de survie est là et il faut que je répare. Sinon, je vais tout casser et je vais me faire mal et je risque de mourir. Donc, en fait, l'instinct de survie me dit il faut continuer et je continue. Et après, je ne veux surtout pas abandonner parce que je me sens tellement bien. J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher, c'est-à-dire un moment d'harmonie avec la mer et mon bateau. Ouais. Et c'est magique quand on vit ça, c'est vraiment magique. Donc, je ne veux surtout pas que la magie s'arrête.
Et c'est le récit, effectivement, d'une transformation aussi, cette course. Avant de partir, Éric Bellion, vous n'étiez pas sûr de faire un film store autour. Vous avez confié vos rushs à un producteur, c'est ça? Ça s'est passé comme ça?
À Jean Cotin. Alors c'est amusant parce que c'est le producteur du film En solitaire, qui est une fiction sur le Vendée Globe.
Oui, oui.
Et c'est à lui que j'ai acheté le bateau.
François Cluzet.
François Cluzet, oui, alias Yann Kermadec. Et c'est vrai que c'est la relation avec Jean qui a créé le film. Je lui ai montré les rushs que j'avais fait.
Vous aviez quoi, 50 heures de tournage?
Oui, ce qui est beaucoup sur une course au large.
Ah oui.
Bon, ça représente une demi-heure par jour, mais ce qui est vraiment beaucoup sur une course au large, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et lui a vu que c'était un film au cinéma et que ça pouvait vraiment être un film au cinéma. Et aujourd'hui, je pense que c'est un film qui fonctionne surtout au cinéma parce que le cinéma permet de vraiment venir faire la course avec moi. On fait le Vendée Globe à deux. Et c'est une belle claque pour le spectateur. Hein. Il en ressort crevé, il ressort vraiment comme s'il avait fait le Vendée Globe.
Vous êtes diplômé d'une école de commerce, Éric Bellion, mais vous avez été nourri de récits de navigateurs, de leurs aventures, d'admiration pour eux. Qui a-t-il dans votre panthéon? Quels sont les grands marins que vous admirez?
Ah, il y a Bernard Moitessier, il y a Knox Johnson, il y a un mystificateur qui s'appelle Donald Crowhurst. Il y a les Damiens, Gérard Janichon et Jérôme Poncet. Ouais. Il y a Isabelle Autissier. Ouais.
C'est plutôt les solitaires, là, ceux que vous citez. Hein.
C'est vrai. Enfin, les Damiens, ils étaient deux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de solitaires. C'est comme quoi ça m'a marqué très vite. Et moi, je suis né en région parisienne. Mes parents étaient plutôt tournés camping-car que voiliers. Et j'ai touché à la voile par la lecture. Et c'est vrai que dans les années 60 jusqu'aux années 70, les marins écrivaient beaucoup.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on avait leur récit. Et je suis venu à la voile par la lecture, par le rêve.
Bon, et aujourd'hui, sur vos papiers d'identité, vous inscrivez quoi? Navigateur, cinéaste, commercial?
Alors, c'est toujours... Je suis très mal à l'aise avec les cases. Alors, évidemment, de temps en temps, je dois me mettre dedans. Je crois que je suis un explorateur de la différence.
Et vous allez explorer maintenant?
Je vais explorer les clés de l'harmonie. J'ai trouvé l'harmonie sur le Vendée Globe et aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir des hommes et des femmes qui sont capables d'utiliser la différence pour créer, réussir et être heureux de façon exceptionnelle. Des gens qui ont vraiment trouvé l'harmonie. Et j'ai envie d'embarquer un grand nombre de personnes, une communauté qui nous suit avec comme un seul homme, pour qu'ils, eux aussi, deviennent des exploratrices et des explorateurs de la différence. Je pense que le temps est venu dans notre société de s'ouvrir à ça et surtout pas se recroqueviller.
Donc d'autres aventures à suivre. Merci beaucoup Éric Bellion. Comme un seul homme, c'est donc à voir au cinéma, hein, évidemment, mercredi prochain, à partir de mercredi prochain dans les salles. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé demain, émission préparée par Marina Bruzès, réalisée par Sophie Mallier. Je vous retrouve samedi prochain 9h10 pour C'est arrivé cette semaine dans quelques minutes. Le grand rendez-vous. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Alors nous allons évoquer avec elle évidemment les issues attendues, possibles du grand débat qui est lancé. Puis on va aussi l'interroger quand même sur ce climat très particulier, climat d'anti-parlementarisme qui est en train de souffler sur la République française aujourd'hui à travers ce mouvement des Gilets jaunes qui s'essouffle mais qui ne désarme pas.
Muriel Pénicaud, invitée du grand rendez-vous dans moins de 3 minutes. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.